RCF.
Eh bien, bonjour tout le monde. Nous nous trouvons chez le peintre Homer Amblas. Bonjour et merci de nous accueillir.
Bonjour.
Pour les auditeurs de RCF, je le dis, on est bien dans un atelier de peintre. Un grand espace ouvert sur toute sa hauteur, avec des tableaux partout, au mur, au sol, des tableaux finis, des toiles en cours. Enfin, un temple de la peinture, en quelque sorte. Homer Amblas, vous êtes né en Guadeloupe, vous avez peint et exposé très jeune. Et puis à 19 ans, vous rejoignez la métropole pour étudier l'architecture. Mais l'architecte continue de peindre. Depuis 2001, là, vous vous consacrez entièrement à la peinture, alors vous voilà tout à fait disponible pour elle. Pour autant, est-ce que vous appréhendez différemment votre travail, votre peinture, je veux dire, en sort-elle différente ?
Moi, je suis né à Guadeloupe, et c'est vrai, arrivé en France, j'étais obligé de reconsidérer les choses, puisque la peinture, pour moi, est devenue quelque chose où je voyais un peu plus sérieusement par rapport à mon enfance. Quand je dis reconsidérer, c'est que cette peinture est devenue pour moi quelque chose de sérieux, et de par mon métier, j'étais obligé d'en prendre conscience qu'il y avait plus de rigueur dans l'action de peindre, et par conséquent, c'était plus un petit jeu, ça commençait à devenir quelque chose de sérieux.
C'est assez drôle, le métier de peintre vous paraissait plus sérieux que l'expression qui est quand même graphique là dans l'architecture. Alors moi, si je tenais à vous interviewer pour notre émission « Vivre et créer en couleur », c'est que pour moi, vous êtes Homer Amblas, un peintre de la couleur par excellence. Alors bien sûr, vos couleurs parlent au peintre que je suis. Ce sont des peintures très colorées qui vous ont fait connaître. Pourquoi et comment vous est venu ce langage par la couleur ?
En fait, je me suis toujours amusé avec la couleur. Depuis très jeune, ça m'amusait drôlement. Et donc, si on tient compte que la Guadeloupe, où je suis né, c'est une île où il y a la cohabitation de la pluie et le soleil. Et cette cohabitation fait apparaître régulièrement des arcs-en-ciel. Et quand on est enfant, devant un arc-en-ciel, on trouve ça merveilleux et tout. Je me suis intéressé beaucoup à ces couleurs qui, pour moi, étaient magiques. Et très jeune, j'ai travaillé sur le cercle chromatique. Et en fait, je ne sais pas si c'est exprès, quand je suis devenu adulte, j'ai fait des études sur la sémiologie. Alors donc, la sémiologie, c'est un domaine vaste et très important où on reconsidère à nouveau les couleurs.
Oui, enfin, il faut dire aussi qu'en Guadeloupe, les couleurs sont magnifiques. Hein. Avoir ces couleurs franches et très vives chez vous, on pourrait croire, j'imagine seulement, que vous faites peu appel au mélange de couleurs. Qu'en est-il ?
En fait, c'est vrai, sur quelques tableaux, j'y mets des touches de couleur pure, parce que c'est une volonté, et souvent je cherche à provoquer, à démarquer, à personnaliser mon travail. Bon, c'est vrai, une couleur pure, c'est pas vraiment académiquement, c'est pas vraiment de bon sens. Mais c'est pour moi, la peinture, c'est une affaire personnelle et je m'autorise à déroger aux règles de l'Académie.
Oui, on en reparlera. Alors je regarde là tout autour de nous dans votre atelier, on voit des personnages, des portraits, des personnages en pied. Dans votre peinture, Homer Amblas, ils sont votre thème favori pour l'instant. En tout cas, les figurer avec une palette aussi colorée, c'est un vrai challenge, je trouve. Est-ce que vous avez utilisé votre palette multicolore pour peindre d'autres thèmes ?
La façon dont je considère la couleur, c'est vrai, je ne fais pas de différence. Quand je travaille sur mes personnages, la densité de la couleur est toujours là, la présence de toutes les couleurs est là, et donc je ne fais pas de différence. Et donc, en regardant de très près mes personnages qui sembleraient être assez sombres, en regardant de très près, on s'aperçoit que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel s'y trouvent. Et là, c'est tout un jeu de glacis et puis de mélange de médiums qui m'anime. Et c'est, Et c'est très présent dans ma peinture.
Oui, c'est vrai, on va reparler de ce noir. Parce qu'on dirait justement que votre palette s'obscurcit, le noir émerge et se fait de plus en plus présent. Comment êtes-vous passé des couleurs vives au noir? Est-ce que votre vie, votre expérience influence votre choix de couleur?
Je ne pense pas être passé de la couleur vive à la couleur noire. Et c'est vrai, c'est tout le jeu, c'est cette alchimie qui se trouve sur mes toiles, qui on pourrait penser que y a un petit glissement. Mais c'est là tout le jeu de la mise en œuvre des couleurs et de la peinture. Et donc je suis persuadé que ce n'est pas un passage, mais seulement c'est une continuité. Et cette continuité, c'est l'expérience que j'apprends tous les jours, car la peinture, c'est un champ immense et c'est tous les jours qu'on apprend. Les couleurs, c'est quelque chose qui, à mon avis, est intarissable et on est obligé d'apprendre tous les jours. Donc, c'est vrai, j'ai toujours considéré qu'il faut se faire plaisir, il faut s'amuser avec la peinture. Et c'est cette sensation, quand on est sur ma toile, on sent des fois, il y a des variations et ça, j'en suis conscient.
Alors justement, on le sait, le noir est l'addition de toutes les couleurs matières. Donc on peut dire effectivement qu'un noir n'est jamais tout à fait noir. Au fait, quel noir utilisez-vous? Un noir du tube, noir d'ivoire ou noir de Mars? Ou est-ce plutôt un noir à peine teinté d'une autre couleur? Dites-nous votre secret.
En fait, le noir pour moi, comment dirais-je, je la fais participer avec mes autres couleurs sur une toile. Mais en fait, je ne mets pas du noir pour faire du noir. Le noir, pour moi, renforce un travail. Le noir, c'est une couleur pour moi qui est noble, qui a autant de valeur qu'un rouge, qu'une autre couleur. Et c'est pour moi très très important cette couleur, la présence de cette couleur dans une toile. Mais en général, le noir de Mars quelquefois, mais c'est souvent un noir de bougie qui m'attire beaucoup. Je ne sais pas pourquoi le noir de bougie m'attire parce que c'est une autre texture qui est vraiment différente. On pourra parler très très longtemps du noir parce que c'est une couleur très puissante.
Oui, elle est aussi très difficile à maîtriser, hein, puisque on le disait, le noir, un peintre amateur qui fait ça, va mélanger toutes ses couleurs, il va arriver par hasard très facilement à un marronasse noirâtre, et le vôtre, effectivement, il ne vient pas par hasard. Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser aussi une couleur si sombre qu'on la dirait noire, comme par exemple le bleu de Prusse ou la terre d'ambre brûlée?
Alors, ces deux couleurs-là, c'est pour moi des couleurs, je dirais, mystérieuses, puisque je les ai très très longtemps utilisées, même quand j'étais jeune, je les utilisais. Et pour moi, c'est des couleurs qui ont une grande signification. Le bleu de Prusse, pour moi, c'est les profondeurs. Quand j'ai envie de présenter quelque chose de profond, de lourd, j'utilise souvent le bleu de Prusse. Et la couleur terre de Sienne brûlée. Et j'ai toujours aimé cette couleur parce que c'est une couleur qui me rappelle la terre et qui me rappelle aussi mon peuple aussi, parce que la couleur, souvent je l'utilise quand je veux peindre des gens de couleur. Et cette couleur de terre brûlée intervient systématiquement. Pour moi, c'est une couleur que je possède toujours dans mes palettes et puis dans aussi mes réserves.
Quoi. Je disais ce noir, on voit toutes les couleurs dans ce noir, en profondeur, en sous-jacence. Il crée la profondeur, aussi une certaine profondeur. Et dans le même temps, il donne l'idée d'une certaine matière. Et aussi, il exalte toutes les couleurs. Est-ce que vous pouvez nous prendre quelques exemples de vos tableaux là qu'on a sous les yeux, nous le décrire?
Alors, j'ai un tableau qui s'appelle Les Insoumis, et c'est sur le tableau de fond bleu, un bleu profond déjà. On peut même penser qu'il y a du bleu de Prusse dedans. Le noir est présent parce qu'il est là pour donner de la force. et en même temps pour sortir du cadre de la couleur qui amuse ou qui fait du joli. Car moi, je dessine pas, je ne peins pas pour faire du joli, je peins pour montrer des choses, quelquefois même pour créer des émotions. Et là, mais en même temps, ma priorité aussi, c'est faire sentir que je joue avec toutes les couleurs. Même un tableau qui est foncé d'aspect, pour moi, sa valeur, c'est parce qu'il y a beaucoup de couleurs dedans, parce qu'il y a toutes les couleurs dedans, en quelque sorte.
Et en même temps, ce noir que l'on voit là, cette fois-ci en sous-jacence, donne une idée de matière, parce que votre peinture est aussi matière.
Ma peinture est aussi matière, parce que je le cherche vraiment. Pour moi, jouer avec la matière, c'est en quelque sorte rendre un peu plus vivant mes personnages. Et la matière sur certaines de mes toiles fait que mon personnage me parle. Et j'ai la sensation qu'il ressort du tableau. Et là, c'est cette sensation de vivant que je ressens et qui me convient parfaitement et que j'aime, quoi.
Oui, vos personnages vous parlent, et il faut le dire aux auditeurs, cette couleur, en même temps que cette matière, ce sont des techniques mixtes, hein, donne une peinture très joyeuse.
Un tableau de Magritte, c'est un livre d'images, un rocher de granit, un oiseau de nuage. C'est un croissant de lune sur un chapeau melon, une plage de dunes où s'envole un ballon. C'est le vent qui se lève et l'horizon qui bouge, un océan de rêve entre deux rideaux rouges. Un château suspendu dans le bleu du silence, comme un îlot perdu entouré d'eau qui danse. Une rose, une pomme, le soleil et la terre, une forêt de mystère, un domaine enchanté. Une pipe, une chaise, la lune et les étoiles, un grand bateau à voile, un homme en liberté. Un tableau de Magritte, c'est un livre d'images, un miroir insolite, un portrait sans visage. C'est un rond de lumière dans le soir qui descend, une statue de pierre au front taché de sang. C'est une porte qui s'ouvre sur le ciel et la mer, le temps qui se découvre et la nuit qui s'éclaire. Une femme aux yeux fermés, d'une étrange attirance, une fenêtre allumée sur un chemin d'enfance. Une plume, une feuille, un bouquet d'oiseaux verts, un jardin grand ouvert, une maison dans la nuit. Une chambre, une table, un fauteuil en voyage, un ami de passage qui laisse un parapluie. Une rose, une pomme, le soleil et la terre, une forêt de mystère, un domaine enchanté. Une pipe, une chaise, la lune et les étoiles, un grand bateau à voile, un homme en liberté.
RCF Charente-Maritime, vivre et créer en couleur se poursuit en compagnie de l'artiste peintre Béatrice Vial-Collet, qui est partie à la rencontre du peintre d'origine guadeloupéenne, Omer Amblas.
Ce travail du noir me rappelle aussi l'importance qu'accordait le monde antique à l'obscur et à la clarté, à la brillance ou à la matité, plus qu'aux couleurs proprement dites. Alors, les noirs d'Omer Amblas sont-ils mats, brillants, parfois mats, parfois brillants?
Je répondrai pour une réponse simple, maths, parce que je me sens plus à l'aise de présenter un travail maths, parce que déjà le travail brillant, ça m'oblige à sortir de mon quotidien et puis de mon caractère de tous les jours, car la brillance, pour moi, c'est se montrer, c'est ce côté éclatant qui brille. Là, ça ne correspond pas du tout à ma façon de vivre. Pour des besoins de mon travail, quelquefois, je suis obligé d'y ajouter des médiums qui rendent mon travail plus brillant.
Oui, c'est vrai, ce n'est pas un travail clinquant, dire. Hein, on est dans une sobriété.
C'est vrai, je ne cherche pas du tout à... Alors, j'ai un travail qui est lourd, je le sais, c'est un travail qui est silencieux. Je définis les couleurs silencieuses par justement ces couleurs que j'utilise, des couleurs plutôt sombres, terre brûlée, terre bleue de Prusse. Et pour moi, ce sont des couleurs qui sont d'une grosse importance dans le langage et des signes et des couleurs. Mes tableaux, pour certains amateurs d'art et des connaisseurs, souvent, je m'aperçois qu'ils sont souvent attirés par ce côté... silencieux, ce côté non clinquant, justement, et c'est ça aussi que j'aime, quoi.
Alors, votre noir regorge de couleurs, en fait, hein. Oui. Mais c'est aussi l'occasion de jouer avec la lumière, d'augmenter les contrastes, de marquer la composition. Est-ce que c'est là votre but, ou est-ce que vous préférez vous laisser aller à la découverte juste de ce qui vient ?
J'étais très, très, très attiré par les peintures qui remontent... je ne dirais pas jusqu'à l'Antiquité, mais le clair-obscur, pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Jusque-là, les peintres qui excellent dans ce domaine-là font un travail vraiment fabuleux. Et je dirais que il y a une espèce d'influence aussi, puisqu'on s'appuie aussi quelquefois sur les choses vraies, sur les choses qui font vibrer. Et au niveau sensation, au niveau émotion, le clair-obscur, pour moi, dans la peinture, on est obligé d'y entrer dedans et puis de l'utiliser, le clair-obscur.
Oui, c'est la lumière, disait Soulages, qui jaillit du noir. Alors vous parliez des peintres antiques, j'irais même plus loin. Le noir est utilisé depuis toujours. L'homme de la préhistoire le fabriquait facilement. Hein. Il broyait l'oxyde de manganèse et le charbon de bois. Et puis il mélangeait tout ça à de l'eau et de la graisse animale. Privilégier le noir, est-ce que ce n'est pas finalement une façon de revenir au geste naturel artistique de base, à la spontanéité, celle que tout artiste recherche, cette spontanéité?
Oui, si on met en évidence les hommes primitifs, et c'est vrai, ça laisse rêveur quand on va dans une grotte et on voit tout ce qu'on voit, les choses merveilleuses qui existent. Et quelquefois, je me dis, j'aimerais bien remonter à cette époque, y vivre. Et je me demande, est-ce que je serais aussi doué qu'eux? Parce que et les formes qu'on voit qui sont si justes, je me dis, quel phénomène naturel et qui leur a permis d'atteindre cette performance de crayonnage, de traits, de forme, de vision aussi dans l'espace. Parce que là, aujourd'hui, dans le monde moderne qu'on est, on s'aperçoit qu'on fait des études, on fait des écoles. Pourquoi ? Pour apprendre justement à maîtriser des formes, la géométrie de l'espace et tout ça. Alors que ces gens-là, ils étaient très forts.
Oui, alors justement, la symbolique pour eux était très très importante, très puissante, l'imaginaire. Et la symbolique du noir est ambivalente. C'est la mort, le malheur, mais c'est aussi la renaissance et la fertilité. Ténèbres lumineuses ou chaos originel, comment le ressentez-vous, Omer Amblas?
Eh bien, à chaque fois que j'utilise du noir ou une couleur sombre, je n'associe jamais la mort et les choses tristes, je dirais. Pour moi, les hommes ont choisi cette couleur pour signifier la détresse, la tristesse, le malheur et tout ça. Et je pense que c'est une erreur, parce que là, c'est resté, et c'est resté dans les mœurs, on vit avec. Et puis, j'avais à l'instant la possibilité de prendre mon café dans une tasse noire, le fond noir. Mm-hmm. Et je refuse parce que ça devient quelque chose d'ancré en soi. parce qu'on a été formaté là-dessus. Et ça, quelquefois, je me dis, mais oui, mais t'es idiot, parce que là, c'est boire un café dans une tasse noire, quelle importance? Ben non, je ne peux pas.
Alors, justement, je suppose que ce ne serait pas le noir votre couleur préférée si vous partiez sur une île déserte. Dites-nous quel unique type de couleur vous emporteriez avec vous?
Alors, je suis très ferme là-dessus. J'amène avec moi une couleur rose de quinacridone. Et cette couleur... c'est pas forcément une vraie couleur définie dans la gamme des couleurs. C'est une couleur qui a été fabriquée par les Italiens. Elle me convient parfaitement et puis je sais de l'utiliser partout.
Oui, on le voit dans beaucoup de vos tableaux.
Et puis même ici, là, on le voit. Mm-hmm. Et puis là, on le voit aussi.
En sous-jacence ou bien en couleur principale.
Il est utilisé soit à un moment en premier plan ou en deuxième plan. Ou par un mélange, le savant mélange des médiums et tout, et il y est. Et puis là, quand on l'utilise d'une manière aléatoire, c'est magique parce qu'il y a des effets qui arrivent avec cette couleur de quinacridone. Extraordinaire, quoi.
C'est votre couleur. Alors, je pense que le mieux pour tout le monde, c'est de s'en rendre compte par soi-même. Je crois qu'on peut vous rencontrer facilement chez vous à Lozière. Dites-nous comment les amateurs de peinture doivent faire pour venir visiter votre atelier.
Alors moi, mon atelier se trouve à Nieul-sur-Mer. C'est tout simple. Quand on arrive à Nieul, à la direction du port, on tombe sur mon atelier. Ça, c'est très facile. Et autrement, au niveau des galeries, je suis donc à Rochefort, à la Galerie Royale. Et autrement, sur Rennes, c'est la Galerie Lotte. Mm-hmm. Et à Nantes, Galerie Montesquieu. Sinon, j'ai des expos comme ça, de temps en temps, dans certaines régions de France.
Et vous aurez le salon Art Atlantique, où on pourra venir vous voir sur votre stand. Pour terminer cet entretien, j'aimerais vous poser quelques questions très rapides qui seront une façon de faire votre connaissance en couleur, mère en place. Alors, si je vous dis, quel souvenir en couleur vous vient là? Par exemple, avez-vous vécu du violet, du bleu, du doré?
Quel souvenir en couleur qui... c'est le vert. Hein. Mm-hmm. C'est le vert. J'ai pas envie de le développer parce que c'est le pourquoi, c'est le vert, parce que c'est une histoire personnelle et c'est personnelle et amusante, il n'y a rien de dramatique. Pour moi, c'est le vert. Hein. Si un jour quelqu'un veut savoir plus, qu'il vienne me voir.
Qu'il vienne vous voir. Comment diriez-vous en couleur, pardon?
Je dirais c'est un bleu de Prusse.
Mm-hmm. Je t'aime.
Je t'aime, c'est un rose de quinacridone.
Ah oui, toujours le même. Oui.
Oui, c'est le vert.
Non.
Non, c'est le rouge.
Alors en Asie, le deuil se porte en blanc, comme on le sait. Chez nous, ça a été le cas jusqu'au XVIe siècle. En ce qui vous concerne, Mère en place, quelle couleur aimeriez-vous choisir pour vivre un deuil?
Le rouge me paraît bien, parce que là, c'est une couleur qui est visible et qui passe bien.
À quelle couleur aimeriez-vous associer Mozart?
Bleu outre-mer.
Les Beatles?
Le vermillon, par exemple.
De quelle couleur voyez-vous la nuit?
La nuit, c'est un bleu de Prusse.
Avec beaucoup de profondeur, oui. Quelle est pour vous la couleur du printemps?
L'automne, c'est l'orange et le printemps, c'est le vert clair.
L'été?
L'été, c'est le bleu.
Et l'hiver?
L'hiver, c'est le gris.
Alors, la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné, pour sa couleur, bien sûr.
Alors, incontestablement, c'est le cheval.
De quelle couleur serait votre principale qualité?
Le bleu cobalt.
Votre principal défaut?
Le vert.
Toujours ce vert. Si Dieu existe, en quelle couleur le voyez-vous vêtu?
Eh bien, c'est le blanc. Parce que c'est... Il n'y a que le blanc qui peut habiller un dieu, je sais pas.
Et puis, oui, c'est quand même une très belle couleur dans laquelle se retrouvent toutes les couleurs aussi à nouveau. Et puis, il contrebalance merveilleusement bien ce noir, qui est votre couleur en ce moment... qui revient souvent dans vos tableaux, et que j'encourage nos auditeurs à venir trouver, à venir admirer chez vous. Je vous remercie beaucoup, Mère en place. Au revoir.
Je vous en prie.